Et le journal de la rédaction, c'est avec vous Mathieu Laurent, bonsoir.
Bonsoir Julie et bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, la poursuite des affrontements entre les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza et l'armée israélienne au front de point. Avec Marine Vlaovic, la situation catastrophique des établissements médicaux de la province d'Idleb, systématiquement bombardée par les forces pro-Assad. Nous sommes en ligne avec Anas Shaker, médecin anesthésiste et porte-parole de l'Union des organisations de secours syriens. La campagne des européennes avec un déplacement de Marine Le Pen à Bruxelles pour soutenir l'extrême droite belge du Vlaams Belang. Et puis il y a 6 mois, le drame de la rue d'Aubagne à Marseille. 9 morts. Une romancière, lauréate du prix Renaudot, habitante de Marseille, Valérie Manteau, avait alors publié une tribune qui étrit la gestion de la municipalité. 6 mois plus tard, que s'est-il passé? Nous l'écouterons en fin d'édition. L'on disait la trêve au Proche-Orient signée fin mars fragile. Les affrontements de ces dernières 48 heures le confirment. 11 Palestiniens et 3 Israéliens tués depuis hier. Des centaines de roquettes tirées sur des localités israéliennes et des missiles et des obus de chars par dizaines sur Gaza. Bonsoir Marine Vlaovic.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendue à Ashkelon en territoire israélien. Quelle est, Marine, la situation cette fin d'après-midi?
Eh bien, dans la ville israélienne la plus importante à proximité de la bande de Gaza, quelques kilomètres seulement, c'est le calme qui règne pour le moment. Pas de voitures ou presque, pas de passants. C'est une ville fantôme qui a été touchée par les roquettes palestiniennes qui ne cessent de s'abattre sur le sud d'Israël depuis hier. Ici, 3 personnes en tout ont succombé à leurs blessures aujourd'hui après avoir été atteints par des débris de missiles. On peut voir d'ailleurs des policiers examiner ces débris dans différents quartiers de la ville. Selon l'hôpital de Barzilai qui se trouve à proximité d'Ashkelon, 131 civils israéliens ont été blessés ce dimanche. Ces dernières heures, l'armée israélienne a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza. Elle affirme d'ailleurs avoir tué un Palestinien responsable, selon elle, de transferts de fonds iraniens à destination du Hamas et du djihad islamique dans l'enclave palestinienne. C'est une rare revendication d'élimination ciblée à Gaza. Sa mort a été confirmée par la branche armée du Hamas qui l'a qualifié de lâche assassinat. Dans l'enclave palestinienne, le bilan humain s'alourdit. Au moins 17 Palestiniens sont morts dans différents raids aériens israéliens depuis hier matin. On signale 110 blessés. En tout, 650 roquettes se sont abattues depuis hier matin sur Israël. Un record. On espère un retour au calme, mais qui semble pour le moment improbable. Tout cela se déroule dans un contexte très particulier. Le Ramadan doit débuter sûrement demain. Israël doit aussi commémorer plusieurs jours de fête nationale cette semaine. Et enfin, l'Eurovision qui se tiendra à Tel Aviv doit débuter dans quelques jours.
Merci à vous Marine Vlaovic, correspondante au Proche-Orient pour RFI et France Culture. Un tribunal égyptien condamne 56 personnes à des peines de prison, dont une à perpétuité pour avoir participé au rassemblement des frères musulmans de Gizeh le 14 août 2013. Rassemblement au cours duquel les forces de sécurité auraient tué plus de 800 manifestants. Selon l'ONG Human Rights Watch, en Algérie, un juge militaire ordonne le placement en détention de Saïd Bouteflika, le frère cadet de l'ancien président et de 2 anciens chefs des services de renseignement, Bachir Atman Tartag et Mohamed Medien dit Toufik, tous 3 arrêtés avant-hier. Les forces du régime syrien et leurs alliés russes prennent pour cible des effectifs djihadistes en nombre dans la province d'Idleb et de Hama, avec pour redoutables conséquences l'exil de plus de 100 000 personnes. Nous sommes en ligne, comme convenu, avec le docteur anesthésiste Anas Shaker, porte-parole de l'Union des organisations de secours et soins médicaux. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Anas Shaker, les combats ne datent pas d'hier, mais dans cette province d'Idleb, ce qui vous alarme surtout, c'est que les hôpitaux et autres structures médicales sont selon vous systématiquement bombardés.
Nous constatons encore une deuxième fois le scénario d'Alep il y a plus de deux ans. Aujourd'hui, une escalade sans précédent. 7 installations de santé, dont 4 hôpitaux, ont été bombardées directement et rasées. Nous déplorons la disparition de 92 victimes civiles, dont un sécuriste casque blanc et un agent hospitalier et une infirmière gravement blessée. Donc ce ciblage des hôpitaux et des ambulances nous inquiètent beaucoup. Je voudrais juste insister sur une chose qui est très importante. Ces installations qui ont été ciblées sont sous protection de l'ONU depuis 15 mois. Donc c'est les images qui nous arrivent sur place. C'est vraiment c'est apocalyptique des vagues de déplacés de la région de Hama et Idlib. Le nombre a dépassé 150 000 personnes. Donc l'USSM condamne ce ciblage prémédité des installations et des médecins et des ambulances. Et nous lançons un appel solennel à la communauté internationale et en particulier à la France pour qu'elle intervienne sans retard, tout de suite. Pour que ça cesse immédiatement.
Anna Shaker, en pareille circonstance, parvenez-vous tout de même à prodiguer quelques soins?
Aujourd'hui, la situation est très catastrophique. Intervenir dans ces zones, c'est très, très risqué. D'ailleurs, les gens sont entassés dans des camps de réfugiés qui déjà ont dépassé leur capacité. L'acheminement d'aide, des médicaments et de nourriture est très, très, très difficile. Et déjà, la situation est en manque et déficit chronique.
Bien, merci infiniment. Merci Anna Shaker. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'Union des organisations de secours et de soins médicaux syriens et médecins anesthésistes. Merci d'avoir répondu à nos questions. À 3 semaines des élections européennes, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, était ce matin à Bruxelles pour apporter son soutien au Vlaams Belang, le parti d'extrême droite belge. L'un des enjeux de ce scrutin pour ces formations d'extrême droite, et pas seulement pour elle, est de constituer un solide groupe au Parlement. Bruxelles, Johanna Holstein.
Marine Le Pen cherche des alliés en Europe pour son futur groupe d'extrême droite au Parlement européen, mais elle veut aussi en renforcer la base. C'est pour cela qu'elle a lancé un appel aux électeurs belges.
Si encore une fois vous souhaitez participer à cette grande dynamique, à ce grand processus politique qui est en train de sauver l'Europe, parce que c'est ce que nous faisons, nous sauvons l'Europe de l'Union européenne. Alors, exprimez, comme nous le faisons à l'égard du Vlaams Belang, votre confiance à l'égard du Vlaams Belang.
Actuellement, un seul député du parti d'extrême droite belge siège au sein du groupe Europe des Nations et des Libertés, auquel appartient aussi le Rassemblement National, Tom van Grinken, président du Vlaams Belang.
Nous ne sommes pas anti-européennes, mais nous sommes contre cette Union européenne, cette Union politique.
Le Vlaams Belang et le Rassemblement National qui veulent former ce qu'ils appellent un super groupe au sein du futur hémicycle, avec la Ligue de Matteo Salvini, avec le parti nationaliste allemand, l'Alternative pour l'Allemagne, avec le parti de Viktor Orban, il est le bienvenu, a répété Marine Le Pen, avec aussi les conservateurs polonais du parti Droit et Justice, même si on ne partage pas les mêmes positions vis-à-vis de Moscou, a insisté Marine Le Pen.
Si la Pologne ne souhaite pas avoir des relations diplomatiques renforcées avec la Russie, personne ne l'oblige à le faire. Mais si l'Italie et la France, nous souhaitons avoir des relations renforcées avec la Russie, libre à nous, encore une fois, de le faire.
Prochaine rencontre pour le camp nationaliste européen, le 18 mai à Milan.
John Holstein à Bruxelles. Il est presque 18h09 et vous écoutez Journal de France Culture. Il y a 6 mois, le drame de la rue d'Aubagne à Marseille. 8 personnes mouraient dans l'effondrement de 2 immeubles. Le 1er décembre 2018, lors d'une manifestation, notamment contre le logement indigne, une autre personne décédée après avoir reçu à sa fenêtre des fragments de grenades lacrymogènes. Marseille est-elle encore la capitale du logement insalubre? Nous sommes en ligne avec la romancière marseillaise Valérie Manteau, lauréate du prix Renaudot, auteur d'une tribune qui a fait date. Valérie Manteau, bonsoir. M'entendez-vous, Valérie Manteau?
Oui, je vous entends.
Bonsoir. Vous êtes membre, je le rappelle aussi, du collectif du 5 novembre Noailles en colère. Alors, je vous la pose très simplement, cette question. Est-ce que c'est encore une ville indigne, au logement indigne, Marseille, 6 mois après ce drame?
Je pense oui, malheureusement, c'est plus que jamais une ville au logement indigne, malheureusement. Si j'en cite le président de Emmaüs local, Fatih Bouaroua, nous sommes... Le mal logement concerne 100 000 personnes à Marseille. Ça en fait la 3e ville du département, Marseille, Aix-en-Provence et les mal logés à Marseille. Depuis l'effondrement de ces 2 immeubles, on a l'impression d'avoir découvert le problème, mais on a plus de 2 600 personnes qui ont été évacuées pour cause de périls graves et imminents chez eux. Et ça continue encore.
Alors quel accompagnement social?
Nous avons eu encore des évacuations dans la ville.
Quel accompagnement social et dans quelles conditions les quelques relogements dont vous parlez ont été effectués?
Alors, il y a des personnes qui ont été relogées. Et en fait, le problème, c'est que la situation continue à progresser, c'est-à-dire de plus en plus de personnes sont délogées au fur et à mesure qu'on les reloge. Et bon, dans l'attente des travaux qui doivent être faits dans les immeubles, les gens sont mis à l'hôtel. Ça crée toute une sorte une catégorie de problèmes semblables. Vous imaginez bien que dans les hôtels, les gens ne peuvent pas cuisiner. Parfois, les hôtels sont très loin de chez eux. Les transports marseillais étant ce qu'ils sont, ça pose un million de problèmes aux gens qui doivent travailler ou continuer à scolariser leurs enfants dans l'arrondissement dans lequel ils vivaient, notamment quand c'était dans le centre-ville, puisque Noailles, c'est l'hypercentre pour Marseille. Et les gens, souvent dans les hôtels, sont emmenés à la Valentine, à l'Esplac, dans les quartiers nord, extrêmement loin de leur quartier d'origine. Et tout ça pose énormément de problèmes. Et on doit bien constater que la mairie n'a pas l'air de du tout d'en prendre conscience. Et les choses même qui avaient été mises en place au début, notamment la cantine gratuite, les tickets de transport gratuits, etc., on commence à entendre des discours très étranges de la mairie disant que nous avons été bien assez généreux avec nos administrés pour l'instant et que maintenant les gens devraient payer la cantine, payer leur transport, voire on a même eu début avril le maire Jean-Claude Gaudin qui a dit qu'il allait falloir commencer à faire de la place dans les hôtels pour la saison touristique qui ouvrait. Voilà dans quel contexte on est.
Bon, Valérie Manteau, est-ce que face à pareille difficulté, les collectifs se sont soudés? Vous qui êtes si attentive à ce qui fait groupe, à ce qui fait collectif.
C'est vraiment la chose extrêmement positive et très belle qui se passe, il me semble, dans la ville et notamment dans le quartier de Noailles depuis novembre. Les collectifs de quartier se sont formés spontanément, alors à Noailles d'abord, mais maintenant il y en a dans d'autres quartiers, sur cette question-là, qui travaillent main dans la main avec toutes les associations qui s'intéressent à cette question du mal logement depuis très longtemps ici, qui n'ont pas attendu le 5 novembre pour se poser la question du mal logement à Marseille. Et moi, j'en suis vraiment témoin en tant que membre du collectif du 5 novembre. La solidarité entre les gens est extraordinaire. Et c'est les gens du quartier ici, au collectif, il y a un groupe de bénévoles qui tient des permanences pour les assister et accompagner les délogés et les relogés dans toutes les démarches administratives auxquelles ils ont malheureusement à faire face pour faire valoir leurs droits. Et cet accompagnement, y compris psychologique, il y a des psychologues bénévoles qui officient auprès des délogés, des gens qui ont été traumatisés par tous ces événements. Et tout ceci repose uniquement sur la solidarité du quartier et des Marseillais. Et malheureusement, doit pallier aux insuffisances de nos élus. Mais au moins, cette chose-là existe.
Alors, vous faites allusion, et ce sera ma dernière question, justement aux élus. Comment faire levier? Comment faire pression sur le conseil municipal, par exemple, pour que ces accompagnements soient dignes de la situation?
Alors justement, le collectif et toutes les associations partenaires, collectifs de quartier et beaucoup d'associations, notamment la Fondation Abbé Pierre, ont travaillé à une charte du relogement depuis plusieurs mois, élaborée en écoutant la parole des gens qui ont été délogés et en venant aux aquaras de quartier, en organisant des assemblées de délogés, essayer de répertorier les problèmes concrets qui se posaient aux gens et inventer des solutions. Cette charte a été proposée en négociation à la mairie, à l'État, à la métropole. Elle est en négociation, mais la mairie fait complètement traîner les choses depuis des semaines. Nous avons donc mis en place une pétition. Peut-être vous connaissez cet instrument qui fait qu'à partir de 10 000 signatures...
Vous l'imposeriez au conseil municipal, c'est ça?
Exactement. Nous pouvons imposer de discuter ces chartes au conseil municipal. Donc voilà le levier sur lequel on essaye d'appuyer en ce moment. Donc j'invite tout le monde, les gens qui nous écoutent, à venir signer cette pétition sur le site du collectif du 5 novembre. On a besoin de 10 000 signatures minimum. Et on va très vite, hein, ça vient rapidement, mais l'enjeu, ce serait de pouvoir le discuter dès le prochain conseil municipal, puisqu'évidemment, il y a urgence. Il y a des gens qui sont à l'hôtel dans des situations extrêmement précaires depuis 6 mois maintenant.
Bien, je vous remercie beaucoup. Merci Valérie Manteau.
Merci à vous.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quelques mots de la météo de demain lundi. Temps globalement calme, mais encore froid, principalement le matin. Température minimale comprise entre 1 à 4 degrés, jusqu'à 6 à 10 degrés dans le sud-est. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau.